Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Sommes-nous en plein délire budgétaire et dans une forme de déni ou de mensonge de la part de la communication des patrons de Bercy? Bon, pour les infos du jour, le litre de carburant restera subventionné à hauteur de 18 centimes jusqu'à la fin du mois de décembre. Le bonus écolo pour acheter une voiture électrique restera à 6 000 euros et non pas à 5 000 euros le 1er juillet. Il n'y aura pas d'impôts en plus, pourtant pas de dette en plus, nous a dit Emmanuel Macron. Puis la croissance est quand même quasi divisée par deux, mais tout va bien, c'est rassurant, nous dit Bruno Le Maire. Les fondamentaux de l'économie sont solides. On a vaguement 17 milliards de charges d'intérêt en plus cette année. Bon, ça va bien se passer. En tout cas, la politique de l'offre est confirmée par le ministre de l'économie. Il est convaincu que l'inflation décroît mi-2023. Et puis le PS confirme qu'il va déposer une loi pour porter le SMIC à 1500 euros net. Jean-Louis Bourlange, dans les colonnes de l'Opinion, parle des limites du tolérable concernant les finances publiques ce matin. Alors c'est vrai que fondamentalement, est-ce qu'il y a des travaux académiques qui fixent une limite du tolérable? Je poserai la question. Mais il y a une belle cagnotte, donc tout va bien. 55 milliards de recettes supplémentaires, merci l'inflation. Donc on peut continuer à dépenser sans compter en maintenant le déficit public tel qu'il était prévu à 5%. Oh, 5%, ce ne sont jamais que 120 milliards d'euros. Aujourd'hui, c'est une paille. La BCE va monter ses taux en juillet, sans doute 25 points de base, mais ça accélérera au mois de septembre. Et puis elle prépare toujours son outil anti-fragmentation. C'est parti. Patrick Artus, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Directeur économique de la recherche économique de Natixis. Vous êtes membre du Cercle des économistes. Vous avez coécrit pour en finir avec le déclin les priorités économiques et sociales chez Odile Jacob. Éric Heyer, bonjour.
Bonjour.
Directeur du département d'analyse et prévision à l'OFCE, membre du Haut Conseil des finances publiques et co-auteur d'Une autre voie est possible vers un modèle social écologique chez Flammarion, Champ Actuel. Et Sylvain Aurébi, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Président d'Orientis, l'été Cousmi. Alors, bouclier tarifaire, chèque énergie, chèque inflation du mois de décembre-janvier, plus tout le paquet pouvoir d'achat, ce sont bien 25 plus 25 égale 50 milliards d'euros. On y va, pas de problème, on a 55 milliards de recettes supplémentaires. J'appelle ça du délire budgétaire, Éric Heyer.
Bon, je sais pas. Enfin, je vous laisse la terminologie.
Non, mais
il faut essayer de déchiffrer tout cela. Alors, d'abord, c'est 55 milliards de recettes supplémentaires. Est-ce qu'on peut essayer de les comprendre d'où elles sortent?
Ah oui. TVA.
Il me semble. On n'a pas encore vu vraiment tout le détail du projet de loi de finances. Mais il y a un point qu'on n'aborde pas assez, c'est le déficit de 2021. Vous voyez, à l'automne dernier, lorsqu'on faisait des prévisions pour 2022 et on arrivait à 5% déficit pour 2022. On partait d'un déficit à 8,1 en 2021.
Oui.
En fait, il est à 6,5. Donc, vous voyez, l'écart est déjà là. Il y a 1,6 de PIB qui est déjà dans les tuyaux. Et donc, c'est ça qui fait 30 milliards de recettes supplémentaires. C'est-à-dire que, en fait, globalement, la croissance a été beaucoup plus forte en 2021 qu'il n'était prévu à l'époque. Et donc, vous voyez, dans les 55 milliards, il y a déjà l'erreur passée, en fait. L'erreur passée, on a été surpris, donc il y a 30 milliards. Donc, vous voyez, on se disait, comment on fait pour être à 5 aujourd'hui alors que la croissance ralentit? Oui, mais parce qu'on partait de 8,1. Non, en fait, on part que de 6,5, entre guillemets, de 6,5.
Donc, on se gargarise des acquis de 2021.
D'accord. Donc, pour l'instant, oui. Donc, il y a plus de la moitié, c'est cela, en fait. Donc, c'est pas un tour de passe-passe.
Et ensuite, j'ai pas dit que c'était un tour de passe-passe.
Et ensuite, il y a beaucoup plus d'inflation qu'anticipée.
Oui.
Alors, vous voyez, l'inflation, on peut considérer que c'est mauvais en termes de pouvoir d'achat, mais pour les recettes publiques, alors, c'est compliqué, pour les recettes publiques, l'inflation, parce que là, l'inflation dont on parle, c'est les prix à la consommation, mais les recettes, elles sont pas que sur l'inflation des prix à la consommation, mais aussi sur le prix du PIB. Et c'est pas la même inflation.
Et qu'est-ce que vous appelez le prix du PIB?
C'est le prix des revenus plus globaux, en fait. Et ça devrait être ça, la vraie inflation. Et donc, le gouvernement devrait nous donner plus leur prévision d'inflation du PIB, parce que les élasticités des recettes, elles sont plus sur les élasticités du PIB, du prix du PIB, que du prix de conso. Je suis désolé, c'est un peu technique, mais puisqu'aujourd'hui, c'est des prix importés qui font beaucoup d'inflation, c'est peut-être pas aussi favorable aux finances publiques que semble dire le 5 ou le 5,5 d'inflation des prix à la consommation. Mais dit autrement, imaginons qu'on ait une inflation homogène, c'est-à-dire que c'est la même inflation pour tout le monde, que ce soit prix de consommation, prix du PIB. Alors oui, à peu près, vous voyez, quand on se trompe de 1 point d'inflation, ça fait 0,3 de déficit en moins. Donc là, le gouvernement pensait que c'était 1,5 l'inflation, vous voyez, 5,5.
Ah oui.
Donc ça fait 4 points, 4 fois 0,3, ça fait déjà 1,2 de déficit en moins juste liés à cette inflation. Vous voyez, vous y arrivez à cela. Enfin, je pense que on va essayer d'expertiser tout cela le jour où on aura vraiment le projet de loi de finances.
D'accord.
Mais globalement, nous, à l'OFCE, on était avec un peu moins de croissance sur 5,5 de déficit. Bon, ils ont un peu plus de croissance, etc. Bon, ils ont plus d'informations que nous. C'est probable, en fait, entre nous, qu'on ait 5 de déficit cette année. Bon, encore une fois, c'est conditionné au fait qu'il y ait 2,5 de croissance. Et ça, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. Peut-être qu'il n'y aura pas 2,5 de croissance. Peut-être que, voilà, on a été surpris. Mais vous voyez, globalement, les bonnes nouvelles étaient déjà dans le tuyau. Tout, l'acquis de croissance, l'acquis des recettes. Voilà. Et après, peut-être que je dirai un mot sur... mais je laisse parler mes camarades.
Sur, vous dites?
Mais non, mais c'est sur comment on comptabilise, quelque part. Vous voyez, on dit on fait 25 milliards de cadeaux supplémentaires, quelque part, en soutien du pouvoir d'achat.
Des cadeaux, des subventions, oui.
Des subventions. Bon, là, je pense qu'il y a une sémantique qui me gêne un peu. C'est-à-dire que, globalement, quand est-ce qu'on considère qu'on demande un effort aux Français ou qu'on aide les Français? Généralement, c'est lorsqu'on on le joue sur l'inflation. C'est-à-dire, quand on, je prends le cas des fonctionnaires, quand on gèle le point de la fonction publique, c'est on demandait des efforts aux fonctionnaires parce qu'ils n'avaient pas l'inflation. Donc là, on leur dit, mais maintenant qu'on leur donne 3,5, c'est en dessous de l'inflation, on leur fait un geste. Non, on ne leur fait pas un geste, on arrête de leur demander de faire des efforts. Mais c'est pas. Vous voyez, de la façon dont on calcule. Oui, mais de la façon dont on calcule normalement l'effort structurel que l'on demande, ben c'est par rapport à l'inflation. Donc, globalement, attention comment on calcule ces 50 milliards.
J'entends tous les niveaux d'expertise qui sont les vôtres, Eric, et Dieu sait si je les respecte et qu'ils se confirment, mais je me mets à la place de quelqu'un qui n'a pas exactement la même expertise, qui lit la page et demie des Échos ce matin, qui se dit. Ça va pas si mal que ça. Bon, finalement. Oh, bah non, bah moi j'étais un peu inquiet. Bah peut-être des épargnés, là, maintenant. Vous voyez, une espèce de lecture un petit peu plus simple, Patrick. Votre lecture de cette photographie portée par Gabriel Attal et Bruno Le Maire ce matin.
Trois choses. Je vais répéter ce qu'a dit Eric, qui est très important. Ce qui réduit le taux d'endettement public, c'est pas l'inflation du consommateur. Quand le prix du pétrole est plus élevé, ça, on gagne pas du revenu, on en perd. Hein? Donc c'est les hausses de prix des entreprises en France, quoi, qui sont en ce moment à peu près à 3,5%. Hein? Donc en fait, on a moins d'effet inflation que ce qu'on pourrait croire. Faire un peu attention, on entend souvent dans les débats, ah on a de l'inflation et donc c'est vachement bon, ça fait baisser la dette publique. Non, c'est que le bout intérieur de
l'inflation. Je suis d'accord, François Eckel nous l'avait largement bien expliqué.
Voilà, et quand vous recevez quand vous avez des hausses massives de prix des matières premières, vous vous appauvrissez au contraire. Hein? Bien sûr. Donc, faire très attention à ce raisonnement-là. Ensuite, deuxième chose, si on a ces 55 milliards, moi je ne vais pas mettre en doute les calculs du ministère des Finances. Hein. Ils ont des dizaines de personnes qui...
Ah mais je ne les mets pas en doute, du tout.
Voilà, donc l'OFCE nous donnera une expertise et nous l'apprendrons. Hein. Mais ça veut quand même dire qu'il y a beaucoup de dépenses publiques qui ne sont pas indexées sur les prix. Et ou qu'il y a des impôts qui sont très indexés sur les prix. C'est un prélèvement sur l'économie. Hein. Donc le fait que on réduit le déficit public quand il y a de l'inflation, c'est qu'en fait moral, il y a pas neutralité de l'État vis-à-vis de l'inflation, et donc il nous prélève ces 55 milliards d'une manière ou d'une autre, soit par de fortes hausses d'impôts, soit par des dépenses publiques qui ne suivent pas les prix. Donc faut faire dans les calculs du stimulus budgétaire, faut faire un peu attention. Ces 55 milliards là, c'est une contraction de la dépense. Hein. Troisième sujet, moi je voudrais me placer sur le quinquennat. Sur le quinquennat, alors prenons les chiffres de Bruno Le Maire, on sera sans doute, bah, je pense que Rangoric, à la fin de l'année, on sera peut-être un peu au-dessus de 5. Quoi. Enfin bon, partons de 5, il faut qu'on aille à 3.
C'est ça.
Mais, dans le même temps, les intérêts sur la dette publique vont beaucoup augmenter, en tenant compte en plus de la partie qui est de la dette indexée sur les prix. Et donc, au total, on va devoir réduire le déficit public hors intérêt sur la dette de presque 4 points de PIB hein, entre 2023 et la fin du quinquennat. Donc sur 4 ans. Donc ça fait presque 100 milliards sur 4 ans. Et ça veut dire qu'on fait le pari que l'économie va aller beaucoup mieux sur les 4 prochaines années qu'aujourd'hui. Sinon, c'est pas raisonnable. Quoi. On fait pas du déficit public. On fait du déficit public parce que l'État peut lisser son intervention dans l'économie. Donc, les mauvaises années, on fait du déficit et les bonnes, on le rembourse. Quoi. Donc,
ça,
si on suppose ça, ça veut dire qu'on se dit la 23-27, ça va être 4 bonnes années. Or, première question, est-ce que les prix de l'énergie vont baisser à partir de 2023? Ben, ma réponse personnelle, c'est non. Ils vont continuer à monter. Ils vont continuer à monter parce qu'on a une insuffisance de ressources en énergie, aussi bien renouvelables que fossiles. On n'investit pas assez dans les deux cas. Et aussi parce que la transition énergétique, ça fait monter les prix de l'énergie parce qu'il y a toute cette techno qu'il faut monter qui est très chère pour fabriquer de l'énergie renouvelable. Donc, je crois que c'est très déraisonnable de penser que les prix de l'énergie vont redescendre. Et puis, les sanctions sur la Russie, elles ont quand même sans vocation à durer, quoi, j'ai l'impression. Donc, est-ce qu'on est sûr que les quatre dernières années du quinquennat seront bien meilleures que la première, quoi? Pas du tout. Et donc, dans ce cas-là, ce choix budgétaire est très, très dangereux.
Parce qu'il faudra... dire qu'il y aura un moment où on va passer du sucré au salé.
On va devoir réduire les déficits publics dans des mauvaises années, ce qui est une chose très difficile à faire.
C'est Eric Gaillard qui va vous contredire là-dessus.
Donc, je suis assez inquiet pour toutes ces raisons. Voilà.
C'est pour ça que
dernier point sur votre intervention, sur votre citation disant que les fondamentaux de l'économie sont bons.
Mais là, c'est là-dessus que je voulais faire réagir.
Oui, bah, juste un mot pour dire que nous venons de casser la barre annualisée de 100 milliards d'euros pour le déficit extérieur pour les produits industriels. Donc, dans un pays qui a 4 points de PIB de déficit extérieur pour les produits industriels, on ne peut pas dire que les fondamentaux de l'économie sont bons, quand même, honnêtement.
Sylvain, par rapport à ce qu'on vient de dire, le fait que 2,5% de croissance, c'est rassurant. Il insiste sur le fait qu'il va continuer la politique de l'offre.
Hein. Oui, voilà. J'espère.
2,5% de croissance, c'est rassurant et les fondamentaux sont bons.
Alors, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que, sale temps pour les prévisionnistes. Hein. C'est très très compliqué aujourd'hui.
C'est juste l'enfer.
Ah non, mais
c'est même pas
un
sale temps.
Mais c'est très compliqué parce que les plaques tectoniques, elles bougent, tout bouge depuis 2-3 ans. La croissance, elle est extrêmement faible, puis extrêmement forte. Elle est mouvante, on ne sait pas où elle va. L'inflation, qui était nulle il y a 2 ans, est devenue extrême aujourd'hui. Et les recettes fiscales bougent tout le temps suite à ces deux indicateurs. Enfin, il y a des tas de choses qui bougent. En plus, on a une guerre qui vient se greffer là-dessus. Le Covid en Chine qui bloque toute la Chine et puis maintenant la Chine redémarre. Où sera-t-elle l'année prochaine? Où sera l'inflation? Où sera le pétrole? Moi, je pense qu'il baissera plutôt... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Patrick. Je pense que l'ensemble des matières premières baisseront l'année prochaine. Elles commencent à baisser aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est un effet technique ou pas, mais elles commencent à baisser globalement. Bref, être capable de dire aujourd'hui, que qu'on soit Bruno Le Maire ou qu'on soit économiste, être capable de dire ce qui va se passer dans un an, il faut être balèze. Maintenant, on est bien obligé.
Ça veut dire qu'il faut pas augmenter les salaires, ce que vous me dites.
Non, je dis pas ça. Parce qu'il y a une réalité qui est l'inflation. Elle est forte aujourd'hui. C'est pour ça que les mesures catégorielles, les mesures ponctuelles sont plus intéressantes qu'une hausse de salaire généralisée sur laquelle on ne reviendra jamais. Bon, mais je dis, c'est très très difficile de se décider. On ne peut que faire confiance au gouvernement, qui pour le coup a pas été mauvais les 5 dernières années. On peut pas dire que ils nous aient trompés sur les chiffres chaque année. Ils vont pas commencer aujourd'hui.
Ah mais je dis pas que les chiffres
priori,
sont faux encore
voilà,
une fois.
Absolument,
hein. Absolument pas.
Mais
c'est l'impression qui ressort de ce discours
oui,
que
oui.
Je trouve un petit peu border. Voilà.
Et c'est pas border, c'est qu'aujourd'hui chacun doit avoir son appréciation sur ce qui va se passer demain. Le ministre en a une, vous pouvez en avoir une autre. Je note que Patrick et Eric ont pas une opinion très très différente finalement. C'est-à-dire qu'ils disent pourquoi pas. Donc c'est très compliqué. Ce que je note aussi, c'est que on fait quand même mieux que nos partenaires. Donc globalement, la France est mieux tirée de cette crise que ses partenaires.
Mais l'Allemagne est en train de se faire rattraper par ce qui a fait ses succès.
Donc donnons-lui crédit de ça. On peut pas se dire vous appelez ça, vous dites je ne conteste pas les chiffres, mais vous appelez ça une cagnotte. Mais c'est pire que contester. Vous mélanchonisez là.
Mais non, parce que ça fait référence à un moment historique.
Ce n'était pas ça la cagnotte historique de Chirac.
C'est la même idée. C'est mieux que si c'était pire. Alors on peut y aller. Et on donne l'impression, comme dit Patrick, il y a 100 milliards de trous de commerce extérieur. On va faire 120 milliards de
billets. Un billet négatif là-dedans.
Et on nous dit ce matin qu'il y a 55 milliards qui tombent du ciel, quel bonheur.
Tout ça pour dire, non, ils ne tombent pas du ciel, ils sont parce que...
Excusez-moi d'avoir une lecture un peu populaire du truc.
Oui, populiste, vous avez dit,
pardon, je n'ai pas entendu. Populaire, j'ai
dit. Populiste. Donc ce gouvernement continue, il y a une chose qui se passera certainement pas, c'est l'augmentation des impôts. Ce n'est pas dans l'ADN de ce gouvernement d'augmenter les impôts.
Il le répète.
Mais
ils l'ont
fait depuis 5 ans.
Oui.
Alors, arrêtez de dire qu'ils vont augmenter les impôts. Ça fait 5
qui
ans
a dit qu'à
ce micro, je vous entends dire qu'ils vont augmenter les impôts. Et ils ne le font pas.
S'il n'y a pas le scénario optimiste qui permet d'arriver au résultat voulu, il y a un moment où je vous dis...
Il y aura sûrement d'autres possibilités que la hausse des impôts, je vous le répète. Parce
oui,
que la hausse
il y en a
impôts,
une autre.
Non, parce que la baisse des impôts de production, typiquement, la baisse des charges sur les entreprises, a produit ses effets dans l'investissement, dans l'emploi, et qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc ne croyez pas qu'il y aura des hausses d'impôts.
Il y a une manière pour ne pas monter les impôts, c'est d'étaler dans le temps certaines baisses. par exemple.
Oui, peut-être.
Ah oui, ben voilà.
Peut-être, nous verrons. Eric, enfin, les impôts de production, ils baissent en 2023, confirmé par Bruno Le Maire hier dans les Échos.
Eh bien, on va attendre la loi de finances 2023.
Oui, absolument.
Je vous rappelle en plus que l'Assemblée nationale, ils sont un peu moins en ordre de sainteté.
Donc, oui, mais enfin, bon.
Je pense que du côté NUPS, on va très vite voir arriver le mot cadeau aux entreprises. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, Eric, allez-y, parce qu'après, moi, j'ai plein de questions sur, justement, est-ce qu'il faut un impôt total CMA-CGM? Et puis, quand même, l'histoire de la cote d'alerte, là, je voudrais avoir un avis d'économiste.
Non, mais sur la conjoncture et sur la croissance économique, bon, je suis d'accord avec Sylvain, il faut quand même être extrêmement modeste. Et donc, voilà. Mais c'est vrai qu'il me semble quand même qu'aujourd'hui, alors je vais faire un peu un biais optimiste, mais on a un biais pessimiste, hein, tout de même. Parce que, vous voyez, je prends juste la Banque de France, hein, il ne faut pas critiquer les collègues, mais tout de même, il montre un compte central à 2,3 et un scénario noir à moins 1,5. Mais vous voyez, si le scénario de 2,3 est central, ça veut dire qu'il y a un scénario plus optimiste. Vous voyez, sinon, ils auraient dit, il y a deux scénarios, voilà un qui est le plus probable. Enfin, c'est là. Non, en fait, il dit scénario central, scénario noir, il parle jamais du scénario un peu plus positif. Pourquoi on pourrait avoir un scénario un peu plus positif? Les scénarios plus négatifs, on les connaît. Mais c'est quoi les éléments qui pourraient potentiellement nous surprendre à la hausse? Un.
Allez-y.
Alors, d'abord.
Les raisons d'espérer avec Eric Ayer.
Aujourd'hui, quand même, on est surpris par quoi? Les créations d'emplois. Oui. On a énormément de créations d'emplois par rapport au niveau d'activité. Bah, peut-être que globalement, le niveau d'activité est supérieur à ce que l'on a aujourd'hui. Vous voyez, on est en train de réfléchir sur des comptes qui sont provisoires. Peut-être que l'activité est nettement supérieure à ce que l'on voit aujourd'hui. Et ça permettrait d'expliquer une partie. Vous voyez, quand on regarde les créations d'emplois, vous voyez, on est, d'après nos modèles, on a 1 100 000 emplois de trop par rapport à ce que nous indiquaient nos modèles, compte tenu de l'activité. Alors, on sait en expliquer une partie, c'est la durée du travail, qui n'est pas revenue à son niveau d'avant-crise, ça fait 400 000. Il y a les apprentis, c'est à peu près 250 000, il manque 500 000. Il y a 500 000 emplois de trop. On ne comprend pas pourquoi les employeurs qui ont des difficultés de recrutement, qui ont de l'incertitude, embauchent autant. Alors, vous voyez, peut-être c'est les carnets de commandes qui sont pleins, peut-être qu'ils ont peur des difficultés de recrutement à venir, donc ils font de la rétention de main-d'œuvre. Mais vous voyez, cela, c'est quand même une grande interrogation. Mais il est possible aussi que, finalement, le PIB soit au-dessus de ce que l'on nous dit. De la même manière, on a beaucoup de recettes. On disait, il y a 55 milliards, une partie, mais peut-être. Et donc, le gouvernement nous dit, c'est les élasticités aux recettes qui sont, des recettes au PIB qui sont supérieures à l'unité. Peut-être que c'est pas cela. Peut-être que c'est juste le PIB qui, aujourd'hui, est sous-évalué. Donc, vous voyez, on a cela. Dernier point. On oublie, ça y est, les 170 milliards de surépargne. Et là, quand on vous regarde la prévision de gouvernement, on continue à surépargner dans leur scénario à 2,5. On continue à surépargner. Donc on va être, j'ai pas fait le calcul encore, mais au-delà de 200 milliards de surépargne. Mais à un moment, et il y a 200 milliards en France, il y a 2000 milliards aux États-Unis, il y en a 200, dans tous les pays développés, un de ces quatre, cet argent-là va aller quelque part. Ou, je n'en sais rien, dans la consommation, peut-être.
Dans le thé.
Mais peut-être dans les
c'est pas le cas pour le moment, je vous rassure.
Ça peut aller dans l'immobilier ou dans des actions, mais ça peut aller aussi dans le financement de la dette publique, donc les taux d'intérêt. Vous voyez, c'est des sommes tellement gigantesques, 200 milliards d'euros rien pour la France. Vous voyez, Patrick disait, c'est ce qui nous manque à peu près pour financer nos déficits si on veut revenir à 3. Bon, mais ça, il faudra bien se poser la question où ça va aller, d'accord. Et donc, bon, nous on le met pas dans notre scénario, d'accord, mais pourquoi on... Voilà, il y a quelques idées qui nous font croire que peut-être que la situation n'est pas aussi mauvaise que cela, même si, effectivement, on est aussi, nous, comme la Banque de France, nos risques, nos aléas sont plutôt à la baisse aujourd'hui parce qu'on a été échaudés.
Il y a un chiffre qui m'a frappé ce matin, c'est de découvrir que la valeur des obligations corporate et souveraines a chuté de 13%, et que c'est, depuis le début de l'année, et c'est la plus forte chute depuis 40 ans.
Oui.
Scénario rose, Patrick Arthur.
Alors, il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé encore qui s'appelle la BCE.
Oui.
Parce que imaginons.
Oh, j'allais pas l'oublier.
Voilà. Oui, imaginons que ça aille en réalité mieux que ce qu'on craint. Alors, les 170 milliards, moi, j'y crois pas du tout parce qu'en fait, ils sont détenus par les 20% de personnes aux revenus
plus
élevés.
Vous croyez pas au fait qu'ils.
Ils vont pas les consommer. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est très impressionnant. Aux États-Unis, on a une explosion du crédit. Le taux d'épargne des ménages s'est effondré. Il va vers zéro tranquillement. Et il n'y a aucune des épargnes. épargne, c'est uniquement du crédit. Donc en fait, vous avez la classe moyenne et les classes populaires qui s'endettent pour consommer.
Crédit à la conso, ça repart fort.
Et les riches qui achètent tout, qui investissent, quoi, qui achètent de l'immobilier, des actions, etc. Donc en fait, cet argent-là, il sera jamais consommé, je pense. Par contre, on peut avoir, comme aux États-Unis, on peut avoir du crédit. Aux États-Unis, c'est impressionnant et ça commence en Europe, le crédit. Non, moi, je voulais revenir sur la BCE parce qu'on peut pas faire de prévision de croissance 2023. Alors, on parle du futur sans se demander ce que va faire la Banque Centrale Européenne. Si on a une économie qui, en réalité, va pas trop mal cette année, et si je suis Eric en disant ça peut aller même encore mieux, peut-être que d'abord, on se trompe et on verra qu'on a plus de PIB. Les révisions étaient énormes dans le passé. Eh ben, en fait, le boulot de la BCE pour ramener l'inflation à 2% en 2024 va être horriblement compliqué. Ça veut dire qu'ils vont monter en 2023 les taux d'intérêt beaucoup plus que ce qu'on le pense aujourd'hui, et ça veut dire que c'est eux qui vont mettre l'économie en récession, parce qu'il y a un vieux résultat quand même de la science économique qui est quand même pas complètement faux, c'est que tant que le taux de chômage est inférieur au taux de chômage que nous on appelle structurel, disons normal, l'inflation elle accélère et elle décélère pas. Et si Bruno Le Maire a raison dans son affirmation de ce matin, que le pic de l'inflation c'est pas avant la mi-2023, la BCE va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus méchante que ce qu'on attend, et donc faut raisonner complètement à l'envers, faut virer tous les prévisionnistes, faut pas faire de prévisions, faut juste se demander qu'est-ce qu'il faut comme récession en 2023 pour que l'inflation descende à 2 en 2024.
Rien de mieux qu'une bonne récession.
Et donc il faut -1, -1,5 quoi, en gros, de croissance en 2023. Donc en fait, le résultat de tout ça, c'est que ça sert à rien d'essayer de prévoir ce qu'ont faire les gens. Les taux vont monter jusqu'à ce que le chômage monte assez pour tuer l'inflation. Ou alors la BCE renonce à tuer l'inflation, c'est une autre possibilité.
Visiblement, elle a pas renoncé, puisque là, elle a un peu fait comprendre qu'elle allait accélérer le mouvement de hausse de taux probablement en septembre.
C'est la BCE qui est la clé de la croissance future et pas les comportements des uns ou des autres.
Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que c'est la BCE qui vraiment a la clé? Et j'ai lu pas mal d'avis d'entreprises aux États-Unis où ils ont de plus en plus, et d'acteurs de marché, ils ont de plus en plus la conviction que la Fed va conduire les États-Unis en récession.
La Fed, c'est évident, la BCE, c'est pas tout à fait encore évident.
C'est très dur de prévoir. D'ailleurs, ce qui m'a frappé, c'est que le rapport Cyclope de Philippe Chalmin, c'est la première fois de son histoire qu'il ne donne pas de prévision chiffrée sur le prix de la tonne de blé.
Mais c'est vrai, parce que on parlait des matières premières. Oui. Je crois qu'on est en train de surestimer cette inflation qui est une inflation conjoncturelle, clairement. Ces matières premières, elles augmentent, toutes les matières premières agricoles, les matières premières industrielles, elles augmentent aujourd'hui par l'effet des blocages en Chine à un moment, de la guerre en Ukraine. Et donc, il faut regarder ça d'un œil tout à fait différent. Vous serez surpris par la baisse des matières premières l'année prochaine.
On marque une pause. Dans un instant, je vous demanderai de réagir à cette histoire de code d'alerte ou alors la limite du tolérable, comme dit Jean-Louis Bourlange, de réagir à cette proposition de loi du PS, hein, pas de LFI, de porter le SMIC à 1 500 € net. Et puis quand même, l'idée de garder une ristourne tous azimuts pour tout le monde de 18 centimes par litre de carburant pendant 5 mois de plus que prévu, alors que tout le monde ne cesse de répéter qu'il faut des aides ciblées. À tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Patrick Artus, directeur de la recherche économique de Natixis, qui a coécrit pour en finir avec le déclin les priorités économiques et sociales chez Odile Jacob, également membre du Cercle des économistes. On se retrouvera, Patrick, à Aix bientôt. Éric Ayer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, membre du Haut Conseil des finances publiques, qui a coécrit Une autre voie est possible vers un modèle social écologique chez Flammarion Champ Actuel. Sylvain Aurébi, le président des Técousmi. Ibrahim m'écrit, le retour à 3% de déficit a-t-il vraiment un sens de nos jours au regard des incertitudes multiples auxquelles nos économies font face. Elle est pas mal, cette question.
Oui, non, mais c'est.
Mais je pense qu'on n'y reviendra pas, d'ailleurs.
Oui, d'accord. Non, mais c'est une question, effectivement, qu'on se pose. Vous voyez, plus que 3%, l'idée, c'est quand même qu'on arrive petit à petit à avoir des finances publiques qui soient gérées, en fait, globalement. Et donc, il faut mettre une trajectoire. Donc, on se dit 3% de déficit, c'est un peu la borne, parce que, globalement, les investissements publics, alors même si la définition est un peu lâche, mais en gros, globalement, chaque année, on investit à peu près 3% d'investissements publics, même c'est au-delà, c'est 3,5%. Donc, qu'on finance ça par du déficit, pourquoi pas. Et puis, c'était un peu 3%.
Oui, mais si on finançait des investissements par du déficit, ce serait bien.
Oui, mais il y a 3,5% de points de PIB d'investissement public. Donc, on pouvait dire...
D'accord.
C'est lorsqu'on va réduire de 5 à 3, qu'est-ce que l'on va réduire? Si on réduit l'investissement public, ça sera peut-être pas une bonne idée. Et puis après, c'était 3%, c'était à peu près le déficit qui permettait de stabiliser la dette publique à un certain niveau compte tenu de l'inflation. Mais ça, c'était à l'époque où on voulait stabiliser à 60 points de dette et qu'on avait à peu près 5 ou 6 de croissance nominale. Bon, mais tout ça, je pense que ce qui est en jeu, c'est est-ce qu'on est crédible dans notre réduction? Et donc, quand on fait des annonces et qu'on dit, voilà, on va être à 3% de déficit, est-ce qu'on est crédible? Ben voilà, quand on entend Patrick à la première partie, il dit, ben, ça va être très compliqué. Donc, globalement, si on veut être encore crédible vis-à-vis de nos partenaires, il va falloir expliquer comment on y arrive et pas simplement parce qu'on a beaucoup de croissance économique qui tombe du ciel.
Enfin, expliquer, oui, effectivement. Parce que je ne sais pas, par exemple, l'interview de Bruno Le Maire et de Gabriel Attal, comment elle est perçue quand elle est lue par aujourd'hui un décideur allemand ou un décideur autrichien ou un néerlandais. Il y a quelqu'un qui vous répond, là, il s'appelle Trotanois. Non, monsieur Auribi, les céréales vont encore augmenter en 2023 parce que les récoltes sont faibles.
Oui, ben, on en reparlera en 2023. Notez son nom.
Non, mais Trotanois, il écoute souvent Trotanois.
Parce que les matières premières, ça fait 40 ans que je connais ça.
Oui, je sais que vous êtes bien.
Les marchés de matières premières, si on pouvait les prévoir aussi facilement un an, on serait tous riches. Alors, il y a toujours beaucoup de surprises. D'abord parce que la nature est capricieuse et parce qu'ensuite, la consommation évolue très vite, les changements de consommation évoluent très vite. Donc, on verra ce que font les céréales et les matières premières agricoles en général dans l'année qui vient.
Je reviendrai dans un instant sur des mesures un peu précises, les 18 centimes par litre, la proposition de loi du PS. Patrick Artus, est-ce que ça a du sens de parler de code d'alerte des finances publiques, de parler de limite du tolérable? Pendant de nombreuses années, et moi le premier qui ne suis pas économiste mais journaliste, y avait des études qui me disaient qu'à 90% de dette, à 91, c'était la fin Armageddon. Puis je me suis dit, c'est ça, il y a des experts qui l'ont déterminé, puis on s'est rendu compte que c'était bullshit.
Bah, d'abord,
alors, il n'y a pas en fait de limite du tolérable. Regardez les Japonais, ils n'ont pas de limite tolérable.
Alors on est à 90 en réalité. Hein,
parce 90 de quoi?
De taux de dette publique.
Ah oui, parce que vous mettez la dette Covid.
Il y en a 25 qui sont à la Banque de France et qui n'existent plus, qui ont été détruits en réalité.
Non.
Si, de facto, ils ont été détruits. Et ils ne coûtent rien, ils ne sont jamais remboursés.
Oui, ils ne coûtent rien.
Ils ont absolument été détruits. Donc on a 90%, on est à 90 en réalité.
Il ne faut pas dire ça parce qu'il y a des gens qui le pensent.
Oui,
ils ont été neutralisés.
Moi, je le pense.
Oui,
je le pense.
Non, mais le mot détruit, on a l'impression
que. Non, mais un truc qui est gratuit et jamais remboursé, si vous voulez, on peut lui garder une existence légale, mais enfin, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Quoi.
Donc, dans la manière, dans les mots à utiliser.
Oui,
c'est comme si vous me disiez, on les a annulés. Non,
nous avons quelques camarades économistes qui ont fait une fixation absolue sur l'idée qu'il fallait légalement les annuler.
Voilà.
À nouveau, un truc gratuit. Non remboursable.
Une cagnotte, quoi.
Voilà, on ne va pas s'embêter à l'annuler. Quoi,
non, j'ai invité des économistes qui défendaient l'annulation officielle avec communiqué de presse.
Il vient n'importe qui sur ce plateau. Hein. Et donc.
Pas aujourd'hui. Hein,
et donc. voilà. Donc, sérieusement, il y a une question très intéressante, mais pour répondre à votre question, moi, je voudrais dire un mot du Japon. Parce que le Japon, c'est le contre-exemple absolu de tout ce que nous venons de dire ici. Le Japon a une dette publique qui est, alors suivant la mesure, entre 250 et 260% du PIB. Ils viennent de décider avec...
Xavier Rago nous disait, Maastrichtien, ce serait 180.
Oui, mais enfin, ils sont à 260.
Il y en a beaucoup.
Ils viennent de décider d'un grand plan de relance par les dépenses publiques et les infrastructures publiques qui fait 4 points de PIB en plus du déficit qu'ils avaient. Donc, ils vont sans doute avoir 8 points de PIB de déficit public l'année prochaine. Ils ont maintenu le contrôle des taux d'intérêt à long terme. Alors techniquement c'est à moins de 25 points de base, mais enfin disons à zéro pour faire simple. Et donc c'est un complètement autre modèle économique où la politique monétaire ne s'intéresse absolument plus à l'inflation. De temps en temps, l'inflation au Japon, en ce moment, elle est presque à 3, elle a déjà été à 4, elle retombe à 0, elle remonte. Ils s'en foutent complètement. Ils maintiennent les taux d'intérêt à long terme à 0. C'est ça Et donc, en fait, la Banque du Japon a comme objectif de permettre à l'État japonais d'avoir n'importe quelle dette publique. Y compris
de 100%. On a bien compris.
Et 300% du PIB dans 3 ou 4 ans. Alors, on pourrait faire ça. On pourrait dire, nous inversons entièrement le fonctionnement de la politique économique. La politique monétaire, ça n'a plus aucun lien avec l'inflation. L'inflation, elle est ce qu'elle veut être. Et puis, peut-être, il faut indexer les salaires. Enfin, au Japon, ils ne sont pas du tout indexés. Hein, et la politique monétaire sert uniquement à donner les mains totalement libres à l'État.
Génial.
Alors, ça s'appelle, d'un côté, l'économie de guerre. Hein, on a besoin de faire d'énormes dépenses de défense. Ça s'appelle la transition énergétique. On a besoin d'investir beaucoup plus pour faire la transition avec des investissements dont souvent les rentabilités
sont faibles. Qu'est-ce qu'on attend,
Patrick Artus ? Et voilà. Donc la question centrale après, c'est qu'est-ce qui va mal au Japon et qui nous empêche de passer à ce modèle-là, qui nous permettrait de faire ce qu'on veut avec le budget.
Qu'est-ce qui va mal chez nous, vous voulez dire ?
Non, au Japon. Parce que oui. Si on dit on veut pas faire ça, on veut remettre des règles budgétaires européennes, on veut ramener le déficit à 3%, on veut que l'inflation soit 2%, quitte à mettre en récession l'économie européenne, ça veut dire qu'on pense que le modèle japonais est épouvantable, quoi. Je veux dire, sinon, remettons les taux à zéro et redonnons un carnet de chèques à Bruno Le Maire. Hein. Donc voilà, donc il faut identifier ce qui va mal au Japon. Ce qui va mal au Japon, c'est que les taux d'intérêt réels, quand il y a des poussées d'inflation, deviennent extrêmement négatifs. Et donc ça, ça désorganise quand même pas mal une économie, mais ça l'a pas tellement désorganisé. Surtout, ce qui va mal au Japon, c'est qu'on ne contrôle plus du tout le taux de change. On voit aujourd'hui, le yen s'effondre parce qu'ils ont des taux à zéro quand les autres les montent. Donc il faut accepter d'énormes mouvements du taux de change. Ce qui, dans une économie comme le Japon, qui est assez fermée, n'est pas très grave. En France, par exemple, ou en Europe, qui est une économie très très ouverte, si on avait d'énormes mouvements du taux de change, ça serait quand même extrêmement déstabilisant.
Ah ben on aurait quand même des gros mouvements.
Oui, mais enfin, par rapport au Japon, le Japon.
Mais par rapport au yen, c'est pas pareil. Si on avait un effondrement de l'euro, je peux vous assurer que
le yen, il fait des mouvements à 50%. Voilà. Mais en gros, posons-nous quand même collectivement cette question. Je veux dire, quelle est la barrière qui fait qu'on va se payer une récession l'année prochaine pour ramener l'inflation à 2, qu'on va ensuite avoir une économie faible pour ramener les déficits publics à 3, qu'on va avoir du mal à financer la transition énergétique parce qu'il faut beaucoup d'investissements et que les taux d'intérêt remontent. Quelle est la barrière qui nous empêche de prendre le modèle japonais? Qu'est-ce qui serait catastrophique dans le modèle japonais si on l'appliquait à l'Europe?
Ben, je pense que ce serait, enfin, on aurait une disparition de l'euro.
L'euro sera à 80 centimes vis-à-vis du dollar. Voilà. Mais faisons l'analyse coût-avantage. Même. Regardons le Japon.
Vous dites ça, Patrick Artus, avec.
Ça très sérieusement.
Mais vous dites ça avec une forme de nostalgie qu'on ne teste pas cette solution japonaise.
Si les Japonais adoptaient la politique monétaire de la réserve fédérale, l'État japonais serait en cessation de paiement très très vite. Hein. Quand vous avez 260% de dette publique.
Vous me donnez l'impression d'être un ambassadeur
je dis simplement, ayons un débat serein entre économistes, etc., sur qu'est-ce qui nous empêche de dire que finalement la politique monétaire c'est un suppôt de la politique budgétaire expansionniste et ça n'a plus, et c'est plus comme ça qu'on traite l'inflation. On traite l'inflation peut-être par des politiques de la concurrence qui permettent de... Enfin voilà, par d'autres politiques que la politique monétaire.
Je me demande s'il n'y a pas un peu de japonisation dans l'outil anti-fragmentation que la BCE est en train de préparer, parce que ça va revenir d'une certaine manière.
Ils ont un mot tout à l'heure, c'est extrêmement important et ça n'a pas été suffisamment analysé.
Alors je ne sais pas si vous voulez réagir, Eric Ayer, à l'histoire du pourquoi, parce que ça donne presque envie ce que dit Patrick Artus. Finalement, ils sont très heureux. Ces Japonais, bon, ils vieillissent, ils vendent plus de couches culottes pour adultes que pour enfants, mais ça se passe bien.
Non, mais sur la soutenabilité de la dette.
Et le mot, après, j'aimerais bien qu'on dise un mot quand même de l'histoire de la cote d'alerte.
C'est la cote d'alerte, mais c'est ça. Donc, quel est le bon niveau de dette publique? Est-ce que c'est le Japonais à 250 ou est-ce que c'était 90, 60 Moi, je pense que. Il y a plusieurs arguments. D'abord, une des différences, mais est-ce qu'on parle de la France et du Japon, c'est que la France est dans la zone euro. Le gros problème, c'est quand vous avez un des gros pays qui est à 70 et puis qu'il y a un autre gros pays, donc l'Allemagne, et qu'il y a un autre gros pays, l'Italie, qui est à 115 ou même plus 125. Donc c'est ça qui ne va pas, c'est qu'on devrait avoir une dette qui soit à peu près commune, puisqu'on a un seul taux d'intérêt, une seule banque centrale, etc. Donc il y a quand même cette histoire, et donc la France au milieu. Mais au-delà de tout cela, on ne va pas refaire, je pense qu'on l'a fait plusieurs fois sur ce plateau, d'abord, est-ce que ça a un sens, ce dette publique sur PIB? Encore une fois, ça n'a aucun sens pour moi. Hein. C'est un stock d'un côté, divisé par un flux, c'est du brut, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas à quoi a servi cette dette publique. Vous voyez, si cette dette publique sert à financer de la consommation et du pouvoir d'achat, bon, c'est pas très bon, hein, d'accord.
Alors, ce qu'on fait là.
Alors, ok, non, mais on reviendra. Si ça sert
à investir et préparer l'avenir,
avoir des actifs, en face de cette dette, vous avez un actif. Donc, vous voyez, le fait qu'on a mis une règle sur la dette brute, vous voyez, quand on privatise la Française des Jeux, on applaudit parce qu'on fait baisser la dette brute, mais on a enlevé des actifs. Enfin, entre nous, pourquoi on regarde cette dette brute? Pourquoi on n'essaie pas d'avoir un raisonnement en dette nette? On sait que c'est plus compliqué, mais regardez que la dette brute, ça n'a pas un grand sens. Vous voyez, moi, il me semble qu'à toutes ces questions, à quoi sert la mondialisation, est-ce qu'on est pour ou contre la mondialisation, pour ou contre le progrès technique, pour ou contre la dette publique? La réponse est, mais quel est l'objectif de notre politique économique? Et est-ce que la mondialisation nous aide? Est-ce que le progrès technique nous aide? Est-ce que la dette publique nous aide à avoir un objectif? Donc, l'objectif ne doit pas être la dette, le progrès technique ou la mondialisation, mais plutôt, ce sont des instruments au service d'un objectif. Donc, moi, j'aimerais qu'on m'explique quel est l'objectif aujourd'hui, pourquoi on fait de la dette publique, et si on soutient, comme vous le dites, de la consommation, peut-être que c'est pas que du pouvoir d'achat qu'on essaie d'avoir, c'est peut-être une crise sociale à venir.
Oui,
L'objectif,
on veut plus avoir des ronds-points, l'objectif, on veut avoir du plein emploi, l'objectif, on veut éviter...
Mais du coup, il faut nous expliquer l'objectif en disant, puisqu'on ne veut pas une crise sociale qui va arriver demain, qui va mettre en péril la croissance, on fait un peu de dette, mais attention, ça doit être financé demain, mais très 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 tôt. Et le dernier point après, c'est que on peut pas signaler quel est le bon niveau de dette, d'accord, tant qu'on ne sait pas, d'accord, quelle est l'envie d'avoir de la dette publique, dans le sens pour les investisseurs. Donc Patrick, lors de la première partie, a dit bon, cette surépargne, je n'y crois pas, n'y retourne pas dans la consommation. Je suis assez d'accord avec lui. Mais donc ça ira quand même quelque part. Il y aura une demande, sans doute, pour aller investir dans du sans risque. Le sans risque, aujourd'hui, eh ben, c'est de la dette publique. Et donc peut-être qu'il y aura une énorme demande, demain, de, eh ben, puisqu'il y a beaucoup plus d'épargne.
Demain, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas.
D'accord. Oh, d'accord, mais attendez, si, parce que globalement, si quand même. Si, et c'est la cote d'alerte. Aujourd'hui, on lève à 2.
Bon, la cote d'alerte, d'accord, c'est le moment où on rend plus notre dette. Non, mais c'est ça, la cote d'alerte, c'est le moment où on rend plus notre dette.
C'est pas parce qu'on est à 2 aujourd'hui qu'on est déjà. On a encore une grosse demande de dette française. Puisque globalement, on devrait être à 3 ou à 3,2 aujourd'hui de taux d'intérêt. On est à 2. C'est-à-dire que globalement, il y a plus de demandes que d'offres. Un peu moins vrai qu'il y a un an, mais parce qu'il y a un peu d'inflation. Mais donc, globalement, enfin, moi, il me semble que le vrai juge de paix, c'est quand même ces intérêts en point de PIB que l'on paye chaque année sur la dette. Vous voyez, il y a 20 ans, lorsque le Premier ministre nous disait qu'il était à la tête d'un État en faillite, ben on consacrait 3,5 points de PIB pour rembourser notre dette. Bon, et là, on était limite, on avait 63 de dette. Bon, aujourd'hui, on est à 1,2 de points de PIB. Ben, peut-être que la cote d'alerte, c'est quand on sera à 3,5 de remboursement de notre dette.
La cote d'alerte, c'est ça.
Ben, on est peut-être très loin. Bon. Vous voyez, on est à 1,2 avant qu'on arrive à 3,5.
Donc, la cote d'alerte, c'est si le taux d'intérêt nominal dépasse le taux de croissance nominale. Mais il est là.
Oui, mais le taux apparent de la dette.
Hein. Oui.
C'est-à-dire que, vous voyez, c'est un gros paquebot, la dette. Hein. C'est 8 ans et demi.
Oui, de maturité,
et donc,
bien sûr.
Ça bouge tout lentement. Bon. Alors qu'on dise tout de suite, attention, dans 10 ans, il y aura peut-être un problème. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'économistes qui nous disent ça depuis 2008, que les taux vont augmenter.
Mais alors après, est-ce qu'il faut utiliser dans la communication politique ce type de terme, de code d'alerte, de limite du tolérable?
Sans doute.
Ah bon. Sylvain Rémy.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Eric sur la dette et ce qu'on en fait. Effectivement.
C'est des années qu'on le dit.
Non, mais enfin, là, pour le moment, on le fait. C'est-à-dire, quand on baisse les impôts de production, ceux dont vous dites qu'ils ne vont pas baisser en 2023, quand on baisse de 10 milliards les impôts de production, ça produit de l'investissement, ça produit de l'emploi. Et on l'a vu, hein, on ne peut pas dire que c'est une chimère. Ça s'est vraiment produit. On a encore 50 milliards d'écart avec l'Allemagne. Mmh. 50 milliards d'écart de taux d'impôts de production qu'on paye en plus que les Allemands. C'est-à-dire que moi, entreprise française, j'ai 50 milliards sur le dos que n'ont pas les Allemands pour courir le marathon qu'on court côte à côte. Donc il y a encore 50 milliards de poches là-dedans. Si on dépense 50 milliards, si l'État dit l'année prochaine, allez, je me mets au niveau de l'Allemagne et je lâche 50 milliards, vous allez dire, ah, la dette, 50 milliards de dette, c'est terrible. Mais si cette dette produit de l'investissement des entreprises, c'est 50 milliards, déjà, il y en a un quart qui va revenir en IS à l'État. Et puis après, les entreprises, cet argent qu'elles vont gagner, ces super profits, ils vont servir à investir, ils vont servir à recruter. Donc on va avoir un effet extrêmement positif. Alors je ne dis pas qu'il faut remettre les impôts de production directement demain au niveau de l'Allemagne, mais en fait, pourquoi pas? Ça, c'est de la bonne dette. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est très conjoncturel, encore une fois. Vous dites, on fait des cadeaux, on fait des chèques, mais justement...
J'ai pas parlé de cadeaux.
On fait des chèques parce que...
ni aux ménages, ni aux entreprises.
On fait des chèques parce qu'on veut pas casser la croissance en augmentant les salaires. L'augmentation de salaire, c'est définitif. On revient pas dessus. L'échec, c'est vrai, ça coûte un peu, c'est pas très joli, ça fait de la dette, de la mauvaise dette, comme disait Eric. Mais finalement, on se dit que l'année prochaine, ça sera réglé et que on ne payera plus ces chèques et la croissance aura été préservée. Et puis, cette dette, elle sera remboursée par les efforts qu'ont fait les entreprises. D'où l'intérêt pour la politique de l'offre qui doit se poursuivre et qui se poursuivra.
Qu'est-ce que je voulais dire?
Oh là là!
Excusez-moi,
Nicolas, j'ai peut-être été trop.
Parce qu'il reste 11. Oui, vous pouvez. Il y a 11 minutes et je voudrais qu'il en reste 40. Donc.
Non, mais sur les deux interventions, je pense qu'on a quand même.
Patrick,
on sait quand même à peu près ce qu'on veut faire. Les économistes n'ont jamais dit qu'il fallait maximiser le PIB. On fait cours de première année d'économie, on explique que ce qu'on maximise, c'est le bien-être et pas le PIB. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui crucialement dans le bien-être? Il me semble que dans un pays comme la France, il y a deux choses. Il y a d'être capable de faire les investissements de transition. On sait que c'est à peu près 4 points de PIB par an d'investissement dans la transition énergétique. On est à 2, donc il faudrait faire 2 points de PIB, 50 milliards d'euros de plus d'investissement. Malheureusement, ces investissements ont des rentabilités financières assez faibles. Hein. Pensez à l'isolation des maisons, pensez à changer la source d'énergie pour la sidérurgie ou le ciment, etc. Et deuxième sujet, c'est le taux d'emploi. On a un taux d'emploi qui est extraordinairement bas par rapport aux pays normaux. Hein. On est à 67% de taux d'emploi. On doit être au moins à 75%.
C'est ça.
Si on avait un taux d'emploi plus élevé, on aurait beaucoup plus de recettes fiscales, on n'aurait pas de problème fiscal, on aurait beaucoup moins d'inégalités, beaucoup moins de pauvreté. Il y aurait beaucoup plus de gens qui ont un emploi, quoi. Donc, en gros, si on avait un ratio normal de genre dette sur bien-être et pas dette sur PIB, on accepterait de s'endetter si ça a comme objet de faire les investissements de transition énergétique et si ça a comme objet de remonter le taux d'emploi. Et donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir. La difficulté, c'est de rendre conciliable ça avec les marchés financiers. Les marchés financiers, ils vous prêtent en fonction de votre capacité banale à lever de l'impôt pour rembourser la dette. Et les impôts, ils se lèvent sur le PIB, ils se lèvent pas sur le bien-être, quoi, je veux dire. Donc on a cette difficulté-là. Donc il faut arriver à montrer aux marchés financiers, et on va devoir le faire, qu'il faut accepter une forme de dette qui n'est pas directement liée à de la croissance du PIB, mais qui est liée à de la croissance du bien-être. Et ça va être ça, de faire de la politique économique dans les prochaines années.
On va faire comme le Bhoutan en 72, le bonheur national
brut. Oui, mais on s'est mesuré. Même l'INSEE fabrique des séries de bien-être que personne ne regarde.
Mais les marchés ont déjà pris ça en compte, on voit bien. Sinon, la France ne serait pas où elle est aujourd'hui. Ça fait des années qu'on annonce la faillite de la France. En fait, les marchés, ils la
trouvent très bien pourquoi la dette française est très demandée. Parce que c'est un titre très liquide qui s'échange quotidiennement très facilement. Parce qu'on a 3500 milliards d'euros d'épargne financière liquide. Parce qu'on a la réputation d'être l'un des pays qui lève le mieux l'impôt. Puis on a vaguement la signature allemande et la BCE derrière qui rassure. Voilà.
Oui, mais
c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne fait peut-être pas exactement comme les Japonais, parce que la confiance dans l'euro...
Mais quand on va commencer à faire vraiment des politiques publiques qui ne feront pas de PIB... Et c'est vraiment ce qui est devant nous. Ça devient compliqué structurellement, quoi, parce que c'est des politiques publiques, même d'investissement, qui ne génèrent pas de recettes fiscales. Ou alors, faut être capable de taxer autre chose que le PIB, quoi. Mais ça, c'est pas complètement évident. Donc, et donc, on va quand même avoir cette difficulté profonde dans les politiques publiques.
Faut-il taxer Total et CMA CGM?
Ah. Bah, comment c'est l'administration?
Alors, non, parce
Total,
que je veux dire, Bruno Le Maire nous dit on le fera pas, mais Clément Beaune dit oui, on y réfléchit. C'est un peu le brouillard.
Je vais réagir comme économiste, hein, et pas comme ancien administrateur de Total. Les économistes, il me semble, sont assez d'accord pour dire qu'on a le droit de taxer les rentes non justifiées. Si vous gagnez beaucoup d'argent parce que vous avez inventé un vaccin ou un ordinateur quantique, etc., c'est une rente justifiée, au moins pendant quelques années. Si vous gagnez beaucoup d'argent parce que le prix de votre maison a énormément monté grâce à la politique monétaire, regardez ce qui se passe aux États-Unis, hein, les prix de l'immobilier ont monté de 50% en 4 ans. Parce que vous êtes dans une position de monopole, ça c'est tout le débat Thomas Philippon, hein, sur ce qui se passe dans les entreprises américaines, ou bien parce que il se trouve que pour une raison quelconque, les prix des matières premières ont explosé, le prix du transport maritime a explosé, vous n'y êtes pour rien, mais vous gagnez de l'argent.
CMA-CGM, voilà.
Le prix du container, voilà. Et donc, première réaction, on a le droit de taxer les rentes qui ne sont pas liées à l'effort. Hein. Après, je saute sur toutes les difficultés techniques.
Je vais vous dire, les profits de Total et de CMA-CGM, ce n'est pas lié à l'effort.
Non, en ce moment, non. Alors après, il y a deuxième chose, on peut alléger ma première affirmation en disant, un, si ces profits anormalement élevés sont réinvestis de façon socialement utile, il n'y a rien à dire, quoi.
On est d'accord.
Donc si CMA-CGM, ce qui est le cas d'ailleurs, achète des bateaux qui marchent maintenant au gaz, qui marcheront plus tard peut-être à l'hydrogène, ou qui vont récupérer le carbone, enfin il y a plein d'innovations dans le tuyau, et si Total met cet argent dans l'investissement, dans la transition vers le vert, hein, de l'entreprise...
C'est ce que dit Bruno Le Maire ce matin, c'est ce qu'il souhaite d'ailleurs.
Il n'y a rien à dire. Donc en fait, une motion plus molle, c'est de dire on ne va pas taxer ces surprofits, mais on va avoir un regard public sur leur utilisation, quoi, qui vont dans le bon sens, en termes de transition, en termes social, etc. Et puis, il y a une difficulté après, j'aurais comme évoqué, si ces entreprises multinationales ne font pas leurs profits en France. Et donc, pourquoi est-ce que c'est l'État français qui récupérerait l'impôt sur les surprofits? Pourquoi c'est pas le Nigeria, le Brésil, l'Angola...
Bruno Le Maire dit d'ailleurs, moi je peux pas le faire parce que la Grande-Bretagne l'a déjà fait et qu'il y a un moment on peut pas payer deux fois.
Mais en plus, légitimement, est-ce que c'est pas plutôt les pays pauvres où se génèrent ces profits qui devraient profiter de la recette fiscale et pas l'État français, quoi, je veux dire.
On est d'accord. Bon, je passe sur l'histoire de...
On pourrait rendre aux entreprises les frettes prohibitifs qu'on a payées depuis 2 ans. Mmh. C'est une bonne nouvelle, non ?
Hugo m'écrit, tant qu'il y a de la confiance, il n'y a pas de problème avec la dette, me dit-il. C'est pas totalement faux. Parce que c'est vrai que c'est quand le reste du monde n'a plus confiance dans votre souverain que les choses...
Qu'est-ce que généralement, vous... quand même, enfin, quand on perd confiance dans l'économie au sens large, il y a ce que Keynes appelait le flight to quality. On va vers ce qui est de qualité et la dette publique est généralement une notion de qualité. C'est-à-dire qu'au contraire, quand on a vraiment une énorme défiance, comme en 2008, bah, globalement, on retire tout des bourses.
Mais on l'a vu, quitte à la prendre un peu négatif.
Pour aller dans
la qualité. Pas en Italie.
Pas en Italie, mais en tout cas, souvent la dette publique est vue comme un actif moins risqué qu'un certain nombre d'actifs. Et donc, du coup,
les fonds de pension qui ont la responsabilité de plusieurs millions de retraités aux États-Unis, ils doivent avoir un quantum de dette publique dans leur
portefeuille. Disons qu'on est encore noté par les agences de notation, AA+, etc. Sans risque. Et plus il y a de la défiance, plus finalement il y a une détérioration.
Ça vous dirait le SMIC à 1500 euros net, Sylvain Aurébi ?
Formidable, vivement.
Le PS, le PS sort la proposition de loi pour ça.
Vous dites ça comme si c'était un truc.
Jamais le PS n'avait dit ça.
Enfin, jamais. Vous écoutez le PS depuis 6 mois ou pas ?
Ah oui, c'était pas dans le programme.
Ils ont dit des bêtises. Ah non, mais le programme, vous savez.
LFI, j'ai vu.
LFI, PS aujourd'hui, kiff-kiff. Hein. Excusez-moi, Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon, même combat. Ne me parlez pas de PS aujourd'hui. Valérie Rabault tout à l'heure qui dit sur votre antenne il faut mettre le SMIC à 1500 euros. Excusez-moi, je préfère qu'elle ne soit pas présidente de la commission des finances. On ne peut pas dire des inepties pareilles à un poste de responsabilité. Donc c'est évidemment, d'abord, le SMIC à 1500 euros, c'est certainement la faillite de nombreuses entreprises. Et en plus, c'est un coût fatal à la croissance française, à l'économie française. Donc on ne peut pas, quand on est responsable, dire un truc pareil. Voilà, c'est tout. Donc, alors, ne me parlez pas de PS comme si c'était le PS.
Non, mais j'étais surpris que le PS porte cette idée.
Ne soyez plus surpris
que ça vienne, si vous voulez.
Mais ne soyez plus surpris. Le PS a été infiltré par LFI. Mais non, mais c'est pas une blague. Ils ont repris toutes les idées de Jean-Luc Mélenchon. Excusez-moi, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, il n'y a plus de le PS d'avant n'existe plus.
Mais peut-être là-dessus.
Eric Ayers, pas trop long parce que je.
Mais globalement, est-ce que c'est 1500 euros dès l'année prochaine ou est-ce que c'est à l'horizon de la fin du quinquennat? Mais voyez que avec ces niveaux d'inflation et qui vont rester assez élevés, j'ai pas fait le calcul, mais on va vite y arriver aux 1500 euros.
Mais donc là, ils veulent
globalement. Quel est le vrai coup de pouce? C'est le coup de pouce qu'il faudrait qu'ils nous indiquent. C'est de combien on devrait augmenter le SMIC plus que l'inflation.
Là, Eric, je comprends qu'ils veulent une loi maintenant pour l'avoir maintenant à 1500.
C'est ça la vraie question. C'est combien de coups de pouce on veut et après on fait le calcul. On fait le calcul, voilà. Alors après on va demander à Gilbert Sept de nous calculer combien ça va détruire de l'emploi.
Il a dit qu'il partait si on lui mettait à 1500.
Avec son coup de pouce. Oui, enfin bref, quand vous questionnez Bercy est beaucoup moins hostile que vous, Sylvain, en disant bon, il faut réfléchir parce que globalement, on va peut-être y être assez rapidement de façon
par les mécanismes d'indexation.
Mais
c'est pas la même chose.
Mais justement, c'est expliquer est-ce que c'est bien un coup de pouce ou est-ce qu'on attend et finalement, peut-être que dans 3 ans, on sera à 1500.
Ah, mais il est possible. C'est la Banque de France qui nous a dit qu'un 7% d'inflation en septembre était possible.
On va réaugmenter le SMIC en août ou en septembre, enfin, petit à petit. Donc voilà, faisons vraiment ce calcul.
Dès qu'on est à plus de 2 points de hausse d'inflation par rapport à la précédente hausse de SMIC, on a une indexation mécanique. Donc. Mais là, c'est pas la même chose.
Mais il faut quand même qu'on ait un débat dans ce pays serein aussi sur on veut augmenter les plus bas salaires, les plus bas revenus.
Oui.
Parce qu'entre l'alimentation, l'énergie et le logement, il y a plein de Français qui n'y arrivent pas.
C'est clair.
Et donc, comment fait-on ? C'est-à-dire est-ce qu'on continue la stratégie qu'on a depuis quelques années, qui est de ne pas toucher au SMIC, de juste de l'indexer sur les prix et de pousser les aides de l'État, donc des chèques, l'augmentation de la prime d'activité, etc. Donc est-ce qu'on continue à faire porter par le budget le soutien des bas revenus ou est-ce qu'on regarde quand même si on ne peut pas faire quelque chose sur les salaires, quoi, je veux dire.
Ce que dit Sylvain.
De façon plus décentralisée et plus discriminante suivant les entreprises que le SMIC. Mais voilà, il me semble la position de Bruno Le Maire, de dire il y a des entreprises qui peuvent le faire, qui ne peuvent pas le faire, au moins celles qui peuvent le faire le fassent. Et alors, dans la littérature de recherche, il y a un truc assez amusant, parce qu'on dit si on fait ça, c'est-à-dire si on laisse monter les plus bas salaires dans les entreprises qui peuvent le faire, c'est un effet très positif, c'est que ça pousse les salariés à aller dans ces entreprises, qui sont des entreprises qui vont mieux et qui sont plus productives que les autres, donc ça déclenche un gros effet schumpeterien dans l'économie par l'attraction des entreprises qui payent mieux. C'est peut-être un truc à regarder.
Bien sûr, salaire d'efficience.
On a 1 minute 20, je voudrais vous lancer sur l'antifragmentation. Alors en 1 minute 20, c'est une gageure. On va faire autre chose pour terminer. Juste Eric, quand vous voyez que les 18 centimes par litre pour tous, on les garde 5 mois de plus, est-ce que là on n'est pas en train de faire fausse route quand même? Parce qu'on veut envoyer du lest à l'opposition pour éviter de se prendre le mur parlementaire lors du premier texte, quoi.
Non, mais ça revient un peu le débat sur les profits des grands groupes. Oui. Avec le quoi qu'il en coûte, ces grands groupes, non seulement ont fait des surprofits, mais en plus ont reçu des aides parce qu'on ne voulait pas trier entre les bonnes et les mauvaises. Donc on a dit, on a donné à des entreprises zombies, mais on a aussi donné à des entreprises qui se portaient bien. D'accord. Voilà. Là, on fait un peu pareil. C'est-à-dire que, on veut aller très vite, on ne veut pas tellement trier, et donc on met 18 centimes à tout le monde. C'est pour ça que moi, globalement, je suis pour l'augmentation des impôts, de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on dit.
Quels impôts?
Parce que, globalement, vous ne pouvez pas trier. Vous ne pouvez pas trier. Donc vous donnez, vous dites à CGA, on vous a donné des aides, vous n'avez pas besoin, vous avez fait des surprofits, on vous les reprend, mais en gros, quand vous regardez le net, ça fait zéro. Et pareil, si on donne 18 centimes à tout le monde, y compris aux riches, pourquoi ne pas réfléchir à une augmentation d'impôts ponctuelle, tant que cette mesure est là, pour dire, tu as bénéficié de cette aide, mais on te la revend, parce qu'en fait, en gros, c'était trop compliqué de cibler à la pompe à essence, on le cible en fonction de la fiscalité. Donc, il faut juste expliquer pourquoi il y a des impôts qui peuvent augmenter transitoirement, pour compenser des aides qui seront aussi transitoires.
Promis, je vous garde l'outil anti-fragmentation au chaud, Patrick, pour la prochaine fois.
C'est très important.
Oui, mais c'est très important. Mais là, on peut pas le traiter vulgairement d'une minute. C'est fini, me dit-on. C'était aujourd'hui Patrick Artus, Eric Heyer et Sylvain Auréby. On se retrouve demain à 9h.